Voilà, bonjour à chacun, chacune. Alors ce matin, on est arrivé un peu en ordre dispersé. C'est un peu la reprise. C'est comme à l'école. Alors moi, j'aime bien qu'on se salue les uns les autres. Là, on n'a pas vu trop qui est arrivé. Donc voilà, on prend une minute. On se dit bonjour, comme ça, moi, je fais aussi la manipulation. Ça, hop, allez, je vais plus vite que vous. Et Becky? Chérie? Voilà, j'ai pas dit de commencer des conversations, j'ai juste dit de se saluer. Voilà. Voilà. La minute est terminée. Est-ce que vous seriez prêt ou est-ce que vous êtes prêt à recevoir des bénédictions de Dieu? On est toujours prêt, hein? Alors, il y a un homme en particulier dans l'Ancien Testament qui a fait un stage de préparation. Et on va voir pourquoi. Alors, pourquoi et comment Dieu a fait ce stage. Et comment Dieu a préparé son peuple à recevoir des bénédictions. Dans le livre de Josué, au chapitre 3 et au verset 5, c'est un peu faible. Josué, chapitre 3, le sixième livre de la Bible. Verset 5, il est dit, Josué dit au peuple, sanctifiez-vous. Alors j'ai marqué les différentes versions ou variations. Consacrez-vous, purifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Le peuple est à un moment particulier. On a déjà parlé un peu de ce livre, on connaît un peu l'histoire. Le peuple sort d'une errance. Beaucoup du peuple, une grande partie de ce peuple est décédée. Une nouvelle génération a pris la place. Et ils doivent rentrer dans le pays promis. Mais Dieu a choisi non pas l'expert Moïse, mais son second, celui qui a toujours été dans l'ombre, pour prendre sa place et pour permettre au peuple de prendre ce que Dieu avait promis. Mais comment le faire? Alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai réfléchi et je me suis dit, mais voilà, Josué avait une tâche très particulière et on a dû lui demander son CV avec une lettre de motivation. Et alors, quand c'est arrivé sur le bureau de notre Dieu, Josué a marqué, moi j'ai déjà fait une mission d'exploration. J'ai été envoyé avec d'autres amis pour explorer les choses que tu nous avais promis. Et alors sur ce même CV, il est marqué qu'il ne se conforme pas à l'opinion de tout le monde. Pas un point très positif, c'est apparemment un batailleur, quelqu'un qui n'accepte pas l'idée commune. Et puis, Nombre 14, 28, cité en référence, dit Josué, fils de Noun, et Caleb, fils de Yéphouné, restèrent seuls, vivants, parmi les hommes qui étaient allés, qui avaient été explorer le pays. Vous imaginez, pour l'embauche, quelqu'un qui dit « Oui, une fois j'ai fait une mission, mais tous ceux qui étaient avec moi sont morts. » Je ne sais pas si nous serions prêts à prendre le pari de dire « Eh bien écoutez, jeune homme, justement, on a du monde à faire disparaître, venez donc chez nous. » Dieu a pris le pari. Non pas le pari, parce qu'il connaît les choses du Seigneur mieux que nous. Hein. Mais il a pris celui qui avait toujours été le second, celui qui avait toujours fait ce qu'on lui avait demandé, qui était resté dans l'ombre de Moïse pendant ces 40 années. Et alors, peut-être les questions qui passaient dans la tête de Josué à ce moment-là, même si c'était un homme de Dieu, comment être sûr que Dieu est vrai ? Tu nous as amenés là, maintenant il y a plein de choses à faire, il y a des barrières infranchissables. Est-ce que tu es vrai ? Comment voir Dieu faire des prodiges ? Dieu en avait fait, il avait donné la manne, il avait libéré le peuple, mais aussi beaucoup avaient péri. Troisième question, comment expérimenter la présence de Jésus ? Alors, c'était certainement pas la question de Josué, mais comment expérimenter la présence de Dieu dans sa vie ? Comment être à la hauteur de ce que Dieu demande ? Et enfin, comment savoir que le Saint-Esprit était en train de travailler ? Quatre questions. Quatre questions qui sont souvent les nôtres, n'est-ce pas ? Dieu me fait des promesses, mais est-ce qu'il va les tenir ? Dieu me dit de lui obéir, mais pourquoi ? Le Saint-Esprit m'a été donné, mais pourquoi faire ? Est-ce que vraiment il est à l'œuvre ? Alors, la première chose que va demander Dieu à ce peuple, on l'a lu en introduction, c'est une consécration. Consécration, acte par lequel une personne ou un objet sont séparés, dédiés solennellement pour le service et le culte de l'Éternel. Mettez-vous à part. Le peuple va prendre possession des choses que Dieu a préparées. Et il lui demande, il dit, sanctifiez-vous, mettez-vous à part, rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Préparez-vous. C'est pour Dieu que vous travaillez. Nous, chrétiens, on a l'habitude de dire qu'on sert Dieu, n'est-ce pas ? Que nous sommes ses enfants, que nous sommes détenteurs déjà de choses que Dieu nous a données. Mais est-ce que notre vie est vraiment consacrée ? Ou est-ce que c'est réservé à une caste, à une partie d'entre nous ? La Bible dit là qu'il a demandé à tout le monde de se sanctifier. Sanctifiez-vous. Demande au peuple qu'il se prépare, qu'il se mette devant toi, qu'il soit prêt à servir comme je le voudrais. Je ne sais pas si le peuple a fait de bon cœur, mais en tout cas, la première chose qui a été demandée, c'est sanctifiez-vous, séparez-vous, consacrez-vous. Est-ce que notre vie tout entière est consacrée à l'Éternel ? Ou est-ce qu'on a encore des poches, des espaces, des endroits qui sont bien à nous et à qui on n'a pas envie que le Seigneur vienne mettre son nez dedans ? 1 Pierre 2,9, il est marqué « Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Vous qui vous dites chrétien, vous qui avez accepté Jésus-Christ, vous qui marchez en son nom, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple qui me sert. Dieu nous permet d'être ses serviteurs. Et nous demande, mettez-vous à part. Sanctifiez-vous. Préparez-vous à ne pas faire de mixture, à ne pas faire de compromis avec ce monde. Parce que le monde, et on connaît l'histoire du peuple, hein, vous attire, vous promet. Les promotions, ça arrive. Dans Romains chapitre 12, ce texte qui résonne par rapport au texte de tout à l'heure de Josué, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, sanctifié, mis à part pour servir Dieu, pour honorer, pour lui rendre un culte. » Et là, Romains, bien des siècles plus tard, nous laisse cette même parole. Voilà l'exhortation lancée au peuple. Vous êtes devant de grandes choses, elles vous attendent. Et on peut imaginer les gens quand on est prêt à avoir quelque chose, hein. On a commandé quelque chose sur Internet, on a commandé quelque chose, et là on est prêt, je vais le chercher. Le Seigneur dit, attendez, c'est pas encore tout à fait prêt. C'est prêt, mais vous avez besoin de faire quelque chose. Alors la première consigne qu'il donne à Josué, au chapitre 1, verset 9, c'était bien avant, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre, sois fort et courageux. » On vous a dit, quand est-ce qu'on nous dit d'être courageux? En fait, quand il va y avoir quelque chose de simple, facile, non. En principe, si on nous dit « soyez courageux », c'est que ça va être difficile. Et là, je ne sais pas si Josué a bien entendu le mot « courageux ». Il a dû se dire « sois fort », ça je le suis. « Courageux », on va voir. « Ne t'effraie pas, ne sois pas terrifié, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. » Là, il est en train de lui faire le plan. D'ailleurs, Josué, ça va bouger dans les brancards. Ça ne sera pas simple. Sois courageux. Ne t'effraie point. Si on vous confie une mission, mes amis, si on nous demande de faire quelque chose, c'est que sur la lettre, vous savez, c'est comme mission impossible, hein. Soyez courageux, ne vous effrayez point, ne soyez pas terrifiés, car le Seigneur, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. La seule différence avec mission impossible, c'est que le message ne disparaît pas dans les 10 secondes, mais qu'il reste là. Voilà la tâche que Dieu nous donne pour aller chercher ce qu'il nous a préparé. C'est prêt, c'est là, mais consigne et promesse, regardez bien, car Dieu est avec toi partout où tu iras. Quelle est une des dernières phrases que Jésus nous a laissées? Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Promesse. Promesse qui a traversé la Bible et qui aujourd'hui est notre espérance, notre assurance, notre sécurité. Bon voilà, j'ai pris cette image, hein, de la traversée du Jourdain. Alors, traverser le Jourdain, bon ben c'est simple. C'est simple. Pas tant que ça. Parcourez le camp, donnez au peuple cet ordre, préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller prendre possession que le Seigneur votre Dieu vous donne. Dans 3 jours, vous passerez. Alors, il y a certainement des gens qui essayent de calculer, bon, alors on va faire des bateaux, bon, alors on va faire des choses. Non, on ne va pas passer de cette façon-là. Le Seigneur a mis un obstacle, où il y a un dernier obstacle qui est là. La rivière, elle est profonde. Et là, pas de préparation, pas de pont. Dieu dit, vous traverserez. Promesse, on va traverser. Comment? Dieu sait. On aimerait bien savoir les plans de Dieu, n'est-ce pas? On aimerait bien qu'il nous envoie sur un petit papier, voilà, on va le faire comme ça. T'es d'accord? Et on dirait, non, 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 non. Moi, j'ai une meilleure plan, j'ai un meilleur plan. Et on pourrait se dire, mais alors si Dieu dit, voilà, vous allez traverser, il dit, consacrez-vous, car demain, le Seigneur fera des choses étonnantes. Donc, il leur a fixé l'objectif, ils sont devant l'impossible, et Dieu leur dit, je vais faire des choses étonnantes. On a du mal, j'avais fait un message il y a plusieurs années qui s'appelait « Laissez-vous étonner ». On a du mal à être étonné par Dieu. Ou en tout cas, on relativise énormément Dieu. « Oh mais j'y suis quand même pour quelque chose, hein. C'est parce que j'ai persévéré. C'est parce que finalement j'ai fait ceci ou j'ai fait cela » et on s'aperçoit que si Dieu n'était pas intervenu, même si on avait persévéré, même si on avait voulu nous-mêmes, on ne serait pas arrivé au bout. Josué chapitre 3 verset 6. Josué dit au prêtre, portez le coffre de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent le coffre de l'alliance et marchèrent devant le peuple. Alors imaginons, voilà, c'est un plan, va falloir qu'on traverse la rivière. Et on va prendre tous les maîtres nageurs devant, tous les agents de police avec leurs trucs de sauvetage derrière. Non, on envoie des prêtres devant. On envoie des religieux devant porter l'arche de l'Alliance. Et même, il y a la consigne de ne pas s'en tenir trop près, parce qu'il faut voir où elle va. C'est une drôle de stratégie quand même, non? C'est pas très réaliste. On voit les prêtres devant. Qu'ils portent le coffre de l'Alliance. Et alors, eux, on va leur donner un rôle très, très intéressant aussi à ces prêtres, hein, qui doivent se sentir honorés en disant, ben, nous, on va être en première ligne. Hein. Vous allez être les premiers à mettre les pieds dans l'eau. Ah, mais là, il y a de l'eau. Mais là, ça bouge dans tous les sens. Et je ne sais pas si les prêtres étaient tellement heureux d'être devant, en fait. Hein, il y a des missions, on dit, poussez pas devant, pas si vite derrière. Hein. Josué chapitre 3, verset 8. Toi, donne cet ordre au prêtre qui porte le coffre de l'Alliance. Quand vous aurez arrivé au bord de l'eau, vous vous tiendrez dans le Jourdain. Il dit pas devant. Il dit, vous vous tiendrez dans le Jourdain. Oui, oui, oui. C'est facile, hein, pour les autres. Ah, oh, t'as de la foi, mon frère, bon courage. On prie pour toi. La mission devient un petit peu compliquée, là. Si on réfléchit un petit peu, on se dit, mais quand même, stratégie pour stratégie, on envoie les prêtres, on leur dit de se tenir dans le Jourdain. Ouh, avec l'arche. Mais c'est quoi la stratégie? D'avoir, Dieu a dit, je vais faire des prodiges. Vous n'avez pas le plan, vous ne maîtrisez rien du tout. Vous êtes en train de vous poser la question, mais c'est irréaliste. Je suis dans un film, réveille-moi Seigneur, là. Je ne comprends plus rien. Dès que ceux qui portaient le coffre arrivèrent au Jourdain et que les prêtres qui portaient le coffre plongèrent les pieds dans l'eau, le Jourdain déborde sur toutes ses rives tout le temps de la moisson. Là, on n'est pas dans un Jourdain calme. On vient s'asseoir l'après-midi, ça déborde de partout. C'est la moisson, il y a eu la fonte des neiges, et là il y a plein d'eau. Les eaux d'Amon s'arrêtèrent et s'élevèrent en une seule masse, à une très grande distance, à Adam, la ville qui est à côté de Sartan, et celles qui descendirent vers la mer de la plaine aride, la mer de sel, furent complètement coupées. Le peuple traversa en face de Jéricho les pieds secs. Dieu a donné des consignes. Elles ont été respectées à la lettre. Et finalement, au bout, le peuple a traversé. C'est bizarre parce que on lit ces histoires et on se dit, mais, bah oui, ils ont obéi, Dieu a permis. Et je nous pose la question après ce premier point. En est-il de même pour nous? On lit la Bible. On sait ce que Dieu veut. ou disons, on dit, on sait ce que Dieu voudrait, et on le fait pas. Et on se demande, qu'est-ce qui se passe ? Prodige. Dieu est un Dieu prodigieux. Première chose, consacrez-vous. Deuxième chose, obéissez. Soyez courageux. N'hésitez pas à vous mouiller, si j'ose faire un jeu de mots. Alors, premier résultat. Lorsque tous les rois des Amorites qui étaient au-delà du Jourdain, à l'ouest de tous les pays des Cananéens, près de la mer, apprirent que le Seigneur avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les Israélites jusqu'à ce qu'ils soient passés, leur cœur fondit et ils perdirent leur souffle devant les Israéliens. Leur cœur fondit, oulalalala, ils ne sont pas tout seuls. Ah, quelqu'un de très puissant avec eux, ce qu'ils font là. Et vous avez bien vu, ils n'ont pas dit ce que les Israélites avaient fait. Ils ont dit, ils étaient étonnés de voir ce que Dieu avait fait. Ça ne les a pas fait plus croire. En tout cas, ils étaient étonnés de voir ce que Dieu avait fait. Et ils fondirent. La réputation était là. Waouh ! Dieu est en train de faire des choses. Alors, on pourrait dire, bon, ça y est, hein ? Ils sont dans le pays, on y va. Chapitre 5, verset 2. En ce temps-là, le Seigneur dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les Israélites une seconde fois. » Josué fit des couteaux de pierre et circoncis les Israélites près de la Corinne d'Araloth. Alors là, on se pose une question. Dieu a fait franchir un obstacle. Ils doivent aller à Jéricho, ils doivent gagner une grande guerre. On aurait pu penser que Dieu les avait mis au vert, les avait détendus, reposés, fortifiés. Petit stage en montagne, Clermont-Ferrand, c'est bien là-bas. Non, on va les circoncire. Comme signe de l'alliance. Mais la circoncision, mes amis, ça fait mal. Ça fait mal. Et il n'y avait pas les antidouleurs, il n'y avait pas l'anesthésie locale. Et on peut se dire, mais qu'est-ce que le Seigneur il est en train de faire ? Il affaiblit son peuple alors que, théoriquement, il devrait le fortifier. On se demande des fois pourquoi Dieu agit de telle ou telle manière, n'est-ce pas ? Seigneur, c'est pas une bonne stratégie ce que tu fais. Il veut montrer quoi à son peuple ? Que c'est pas lui qui est en train de faire les choses, mais que c'est Dieu qui fait les choses. Résultat, chapitre 5, verset 8, « Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent sur place dans le camp jusqu'à leur guérison. » On imagine. Ils restèrent sur place. Ils n'avaient plus envie de courir. Ils ne pouvaient plus être forts, ils étaient devenus faibles. Paul a dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Parce qu'alors je peux laisser Dieu travailler. Parce qu'alors devant les obstacles, dit Seigneur, je ne peux pas. Seigneur, je ne peux pas. Mais toi, tu peux. C'est quand on peut lui déposer nos forces. Quand on peut lui dire, Seigneur, à vue humaine, c'est mission impossible. Mais à vue divine, c'est certainement mission possible. Verset 9. Le Seigneur dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé loin de vous le déshonneur de l'Égypte, c'est pourquoi on appellera ce lieu du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Gilgal, ça veut dire ôter. On leur a demandé de faire un autel des souvenirs. Ils devaient apporter une pierre en souvenir que Dieu les avait délivrés. Et à Gilgal, ce qui est intéressant, c'est que nous, vous savez, on fait des pierres tombales, on fait des pierres souvenirs et on passe devant et on regarde. Ah oui, ça me rappelle. Mais là, Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'en fait, il fait construire cet autel où au milieu de la terre sèche, au milieu du Jourdain, qui est sec. Et qu'est-ce qui se passe une fois que le peuple passe? L'eau recommence à couler, et l'autel est enterré. Voilà ce que Dieu fait avec nos fautes, mes amis, avec notre passé, avec nos difficultés, avec nos chutes. Il les engloutit au fond de la mer. Mais nous, on a tellement de mal à pardonner. On a tellement de mal à oublier ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a fait. Alors là, je peux te dire, c'est gravé. Et un plat se mange froid et tu vas voir. Non? Dieu a dit, ce que vous avez fait, votre passé, vos cris, à chaque fois que vous avez maugréé contre moi, voilà, c'est là, au fond de la mer. Les Israélites campèrent à Gilgal, ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, au soir, dans les plaines arides de Jéricho. Et regardez bien, il se passe quelque chose. Jusque-là, Dieu a fourni la nourriture, n'est-ce pas? Là, il y a un changement. Vous avez obéi, vous êtes à l'endroit où que je vous ai préparé. Et alors là, ils mangèrent des produits du pays, du pain sans levain, du grain rôti, le lendemain de la Pâque, en ce jour même. La manne cessa le lendemain, quand ils mangèrent des produits du pays. Il n'y eut plus de manne pour les Israélites. Ils mangèrent le produit de Canaan en cette année-là. Changement ! Prodige ! Dieu arrête de fournir, il dit maintenant, voilà, je vous ai préparé quelque chose. Sanctification, mise à part, obéissance, confiance, courage. Pour arriver, Dieu donne déjà sa nourriture à son peuple, directement. Ils mangèrent du pain sans levain, du grain rôti. Je ne sais pas si on peut s'apercevoir de tout ce que Dieu fait. Hier, on parlait avec quelqu'un qui était très, 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 très découragé. Et qui disait, « Oh, Dieu, il a même oublié mon prénom !» Et la seule phrase qui a pu venir, c'est, « Et si tu te mettais à compter tout ce que Dieu a fait jusque-là ?»« Oui, mais enfin là !» J'ai fait, « Oui, mais avant. » On oublie, n'est-ce pas? Nous, c'est ça qu'on met sous la mer, hein. C'est ce que Dieu a fait avant. Mais là, Dieu est le Dieu qui, la Bible nous dit, renouvelle chaque jour les choses qu'il nous a promises, les bienfaits de Dieu. Le peuple a obéi, le peuple a souffert. Quand Dieu a demandé à Josué, sois courageux, je ne sais pas s'il imaginait ça. S'il imaginait ce qu'il allait dire au peuple, bon les gars, venez, il y a circoncision aujourd'hui. Bon, écoutez, je passe mon tour. Non, il y a ma femme à faire les courses avec elle. Le peuple a dû se rebeller, mes amis. Mais le peuple a obéi, le peuple a fait cet autel, et le peuple a été béni. Alors, il se passe quelque chose d'incroyable. Première chose, on demande aux hommes de se mettre à part. Deuxième chose, on les sanctifie, on les circoncit plutôt. Et là, il se passe un événement assez étrange. Josué chapitre 5, verset 13. « Comme Josué était à Jéricho, il leva les yeux, regarda, un homme se tenait en face de lui, son épée tirée. Josué marcha vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos adversaires ?» Il répondit, « Je suis... » le chef de l'armée du Seigneur. Maintenant, je suis arrivé. Josué tomba face contre terre, prosterné, et lui dit, « Qu'as-tu à me dire, mon Seigneur ?» Le chef de l'armée du Seigneur dit à Josué, « Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu tiens est sacré. » Et là, j'ai marqué en référence Exode 31, verset 10. « Moïse, quitte tes sandales. » Le successeur vit la même chose. Il doit lui aussi se sanctifier. Lui aussi, se prosterner devant Dieu, admettre une fois encore que ce n'est pas lui qui va combattre, mais que le chef de l'armée, ce n'est pas Josué. C'est notre Dieu. C'est lui. Vous avez vu comment ? C'est incroyable parce que quand on pense tous avoir des cas uniques, je dois être le seul sur la terre qui souffre autant. C'est jamais arrivé à personne. Celui qui fait les émissions à la télé, là, qui arrive jamais, là. Je vais lui téléphoner parce que c'est un truc. Quand on lit la Bible, on se dit, mais c'est déjà arrivé. Et Dieu a répondu. Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est sacré. Josué fit ainsi. Il avait amené le peuple jusque-là, et à chaque fois, Dieu a montré que celui qui dirigeait, c'était pas Josué. C'était pas le chef, il n'était pas devenu général des armées. Mais que celui qui était devant lui avait préparé le terrain. Alors, finalement, troisièmement, on prépare la conquête. Enfin, ça y est, va y avoir du truc. Obélix serait là, hein, il dirait, laissez-les-moi. Jéricho était complètement fermé devant les Israélites. Personne n'en sortait, personne n'y entrait. Le Seigneur dit à Josué, regarde, je t'ai livré Jéricho, son roi, les vaillants guerriers, vous tous les hommes de guerre, vous ferez le tour de la ville, vous tournerez une fois autour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours, 7 prêtres porteront des trompes, les cornes de bélier devant le coffre, le 7e jour vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les prêtres sonneront de la trompe, quand on fera retentir la corne du bélier, quand vous entendrez le son de la trompe, tout le peuple lancera une grande acclamation, les rambardes de la ville s'écroulera sur lui-même, et le peuple montera à l'assaut, chacun devant soi. Waouh ! En termes de stratégie, notre Seigneur, il a peut-être besoin de conseiller, non ? Non. On aurait... Attends, Seigneur, c'est tout barricadé, tu vois, on leur rentre dedans, on a des hommes forts, ça y est, ils ont récupéré. Vous allez faire le tour de la ville. Une fois par jour, 7 jours de suite. On va creuser des sillons autour. Et quand vous entendrez le son de la trompette, vous pousserez une acclamation. Mes amis, quand est-ce qu'un jour on entendra la trompette ? Retour de Christ ! Et là, on pourra lancer une grande acclamation. Parce qu'alors, ça voudra dire que Dieu sera là. Et vous avez vu que c'est incroyable de voir comment Dieu nous prépare. Nous prépare à quelque chose de grand, quelque chose de magnifique, quelque chose qu'on attend avec, où Paul dit, moi je veux en être, Paul, l'apôtre Paul, à 60 avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, il dit, moi je veux y être, je veux y être. Mais ceux qui sont morts avant nous ne nous devanceront pas, mes amis. Stratégie, la stratégie du Seigneur, c'est l'obéissance, c'est la foi. Tu crois que ça va marcher ? Bah écoute... Chapitre 6, verset 20. Le peuple lança une acclamation. On sonna la trompe. Lorsque le peuple entendit le son de la trompe, il lança une grande acclamation. Le rempart s'écroula sur lui-même. Et le peuple monta à l'assaut de la ville. Chacun devant soi, ils prirent la ville. C'est ça ce qu'on est en train de parler ce matin. Obéissance, foi, ça marche. La seule différence, c'est que nous, foi, oui, peut-être. Obéissance de temps en temps, et ça marche, pas tout le temps. Et on se pose la question. Mais moi, je veux voir Dieu à l'œuvre. Mais moi, je veux voir comment Dieu change ma vie. Sanctifie-toi. Mets-toi à part. Dieu est prêt à faire de grandes choses parmi nous, mais aussi avec nous. Il n'a pas mis le peuple à part. Il n'a pas dit aux hommes, vous êtes des incapables. Mais Dieu a dit, je vais faire avec vous, par vous et en vous quelque chose que le peuple verra. Jean 13, 34, 35. Aimez-vous les uns les autres, à ceci sauront que vous êtes mes disciples. Ce n'est pas une option. C'est pas une option. C'est ce que Dieu me demande. C'est ma feuille de route. Il demande de la consécration, du courage, de la passion, de la foi. Est-ce que nous sommes des passionnés de Dieu ? Des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes qui, finalement, à quelle que soit l'étape de la vie dans laquelle nous sommes, Dieu est celui que nous cherchons le plus. Dans notre travail, dans nos relations. Ou est-ce que finalement, il passe après ? Qu'est-ce qui nous retient d'aller là ? Ah, le passé, ah oui, mais... Nettoyer mon dossier. Nos chutes. Oh, j'ai essayé, Seigneur, mais tu sais, à chaque fois que j'ai voulu faire ça, ça n'a pas marché. Et puis, ça ne marchera pas. Le manque de confiance. J'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Il y a déjà des choses devant nous, devant vous, qui vous ont arrêté. Parce que vous avez regardé à une seule personne. Parce que j'ai regardé à une seule personne. Moi. Quand on regarde à nous, mes amis, c'est mission impossible. Quand on regarde à Dieu, alors les choses changent. Alors ce qui nous paraissait impossible devient possible. Alors ce qui nous paraissait incroyable devient croyable. Alors ce qu'on voyait comme très ordinaire devient extraordinaire. N'est-ce pas là un exemple que Dieu nous a laissé pour nous, Église de Vigneux ? Des choses incroyables sont en attente, en réserve pour nous. Mais Dieu attend une chose de notre part. La foi. La confiance. L'endurance. Et on a tellement de mal. On se décourage, n'est-ce pas ? Et on a le droit d'être découragé. Seigneur, t'as vu depuis combien de temps j'attends ? Et en tout bas, on lui dit, t'exagères pas un peu là ? Tu as pas dit que toute chose était humaine ? Là, on est au bord du surhumain. Nous avons besoin d'un Gilgal. De quelque chose où on se rappelle que Dieu, notre passé, il l'a pris en compte. Et il l'a effacé. On a besoin de revenir à ce temps de consécration ensemble. Où chacun pour sa part, on décide, Seigneur, c'est toi que je veux servir. Et pas ce monde. C'est en toi que je veux mettre ma confiance. Pas dans les gourous. C'est toi que je veux laisser agir dans ma vie. Et pas les circonstances. Pas le temps. Pas les événements, même pas les maladies. Alors les questions que j'avais mises au début, comment être sûr que Dieu est vrai ? Le livre de Malachie dit, mettez-moi à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez. Mettez-moi à l'épreuve. Le Nouveau Testament dit ainsi, si aujourd'hui vous entendez sa voix, ne faites pas comme ceux qui dans le désert se sont rebellés. Comment voir Dieu faire des prodiges ? Le suivre. Regardez là où il va. Il nous précède, mes amis. Quand il nous envoie quelque part, il y a été avant. On n'est pas les explorateurs pour Dieu. Seigneur, c'est bon là ! Tu peux venir. Le principe, c'est plutôt l'inverse. C'est lui qui dit, eh viens, j'ai déjà sécurisé la place. Comment expérimenter la présence de Jésus dans nos vies ? Le laisser vivre. Seigneur, je te donne ma vie. Toute ma vie. Pas un peu. Pas ma tête. Pas mes pieds, pas mes bras. Je te donne ma vie entière. Que dans mon travail, que dans mon mariage, que dans mes relations avec mes amis, que dans mon repos, ma vie te glorifie. Comment savoir que le Saint-Esprit travaille en nous? Regardez ce qu'il fait. C'est lui qui nous convainc, c'est lui qui intercède, c'est lui qui nous console, c'est lui qui parle à notre place. C'est lui qui nous permet d'être scellés, d'être assurés. C'est lui qui nous rappelle les paroles de Jésus. Dans Jean 1, 29, il est dit, « Le lendemain, il vit Jésus, c'est Jean-Baptiste, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. » Et là, j'ai marqué, d'un côté, il y a Golgotha, avec la croix dessus. Et d'un autre côté, il y a Gilgal. Et Jésus, c'est la réunion de Golgotha et de Gilgal. Il a été exposé devant tout le monde, au sommet d'une montagne. Mais il n'est pas resté cloué sur cette croix. Il n'est pas resté enfermé dans sa tombe. La Bible dit qu'il est vivant. Et c'est pour ça qu'on est là ce matin. Et qu'en même temps, il a payé nos péchés. Il les a effacés, gommés, ôtés. Pas couvertes. Ôtés. Il a remis le fleuve et repassé dessus. On ne peut même pas se glorifier en disant, là par là, là, il y a une pierre à moi. Là. C'est mes péchés. Et je ne vais pas les chercher. Dieu a dit, j'ai une amie qui avait envoyé ça récemment sur internet, elle avait dit que Dieu avait envoyé le péché, nos péchés au fond de l'étang, il y avait un grand panneau, c'était marqué « pêche interdite ». Dieu est ce Dieu tellement bon, qui veut faire des prodiges dans nos vies. Des choses qu'on ne soupçonne pas, des choses qu'on n'a même pas dans notre tête, tellement c'est grand et c'est beau. Mais mes amis, ça demande... Tout d'abord que nous puissions nous incliner devant Dieu, comme l'a fait Josué devant le chef de l'armée. Seigneur, que veux-tu? Vous rappelez l'apôtre Paul, avant qu'il ne soit l'apôtre Paul, Saul de Tarse, hein? Seigneur, qui es-tu? Je suis ce Seigneur que tu persécutes. Josué 3:5, Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, consacrez-vous, purifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges. Au milieu de vous. La Bible nous annonce, mes amis, que devant nous, des prodiges sont là. Des choses qu'on n'attend pas. Notre sœur a partagé, hein, des choses que Dieu avait fait dans sa vie, que Dieu l'avait confirmé. Est-ce que nous doutons de Dieu encore? Est-ce que nous pensons qu'il n'est pas possible que Dieu fasse des prodiges? Est-ce que nous pensons que comme sur le CV de Josué, nous soyons incompétents. Dieu n'a pas besoin de nous, mais il a choisi de nous utiliser. Parce qu'il nous aime. Alors j'espère que cette petite histoire de Josué, de son peuple, va nous incliner à nous poser la question ce matin. Est-ce que ma vie entière t'est dédiée, Seigneur ? Est-ce que j'ai encore des doutes que tu peux faire des choses incroyables? Peut-être pas les choses que moi j'attends, mais des choses qui vont me surprendre. Parce que tu es le Dieu qui ne ment pas. Tu es le Dieu qui accomplit ses promesses. Et si tu nous en as fait la promesse, tu vas la tenir. Non pas dans mon agenda, mais dans le tien. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, tu nous as encore rappelé ce matin cette belle histoire de ton peuple. Ou alors que, en termes de stratégie militaire, les généraux auraient choisi bien d'autres choses. Toi, dans ta direction divine, tu as demandé au peuple qu'il s'abaisse devant toi. Tu leur as permis qu'il soit faible, afin que tu sois fort dans leur vie. Tu leur as donné ce que tu leur avais promis en ton temps. Tu as montré que ton aide était toujours là. Et Seigneur, nous, peuple chrétien de ce 21e siècle, parfois nous oublions que tu es là, que tu nous tiens, que tu nous soutiens, que tu nous aimes. que tu marches à nos côtés, que tu es miséricordieux, patient, lent à la colère. Et Père, tout ça, c'est pour ta gloire. Alors peuple chrétien, ce matin, nous avons une chose à faire, c'est nous incliner devant Dieu. Devant ce Dieu si merveilleux, devant ce Dieu si merveilleux qu'il est descendu de son ciel pour venir nous chercher. Si ce matin vous êtes venu en disant « Je crois plus que Dieu soit capable de faire quelque chose dans ma vie. Je crois que mes prières sont silencieuses, qu'elles vont que dans un côté et que Dieu n'écoute même pas. » Dieu veut faire des prodiges dans nos vies. Il en réserve encore plein de choses, tellement de choses dont nous serons témoins et dont nous pourrons rendre témoignage. Alors si, tout simplement, si ce matin vous dites « Seigneur, j'avais perdu confiance en toi. Seigneur, les choses qui me paraissaient tellement impossibles, tu veux les faire dans ma vie. » Alors je m'humilie devant toi ce matin et je demande ta grâce. La grâce de m'aider. La grâce de te laisser faire les choses que tu veux dans ma vie. Merci pour ce Saint-Esprit qui me convainc, qui me reprend, qui me rappelle tes paroles. Alors si ce matin vous êtes venu dans cet état d'esprit, si ce matin vous étiez venu découragé et que cette prédication, la Bible, vous a fait du bien, vous a permis de relever la tête et de dire « C'est vrai, nous avons un Dieu prodigieux. » Je vous demande juste de lever la main, là où vous êtes, et de dire « Jean-Claude, prie pour moi, afin que je prenne cette main, que je puisse relever la tête vers Dieu, que je puisse me mettre à part, parce que c'est mon désir. » Oui, que Dieu vous bénisse, ma sœur. Oui, que Dieu vous bénisse, oui. Oui Seigneur, tu es un Dieu trois fois saint, oui, Dieu te bénisse mon frère. Dieu a de grandes choses en réserve pour nous, pas à cause de nous, mais à cause de lui. Que Dieu vous encourage, que Dieu nous encourage, que nous soyons courageux, persévérants, parce que Dieu veut nous montrer ce qu'il a en réserve pour son peuple ici à Vigneux, et ce sont de belles choses. Au nom de Jésus. Amen.